À voix nue. Cette semaine, Serge Toubiana rencontre Margaret Mengoz. Ce soir, les films du Losange, un atelier de production européen.
Bonsoir Margaret Mengoz.
Bonsoir.
Au début des années 80, sous votre impulsion, les films du Losange élargissent le périmètre de leurs activités en produisant d'autres films que ceux d'Éric Rohmer et de Barbé Schroeder, les deux fondateurs de la société. Votre savoir-faire est reconnu et la Gaumont se tourne vers vous pour produire, pour son compte, certains films ambitieux, tels Le Danton d'André Vaïda ou La Dame aux Camélias de Mauro Bolognini. Comment s'opère ce choix ?
Eh bien, après Perceval de Gallois, qui était un film de Rohmer que nous avons fait pour ne pas laisser à Walt Disney le monopole du divertissement des enfants. Rohmer me disait, il y a dans l'histoire française des textes qui sont aussi drôles, aussi formidables que ce que Disney raconte dans ses films pour enfants, Perceval le Gallois. Bon, c'était pas perçu comme ça par les enfants français. Les films étaient un échec. Il était plus cher que tous les autres films parce qu'entièrement fait en studio. Et on était très pauvres. Et à cette époque-là, il avait quand même un trouble avant qu'il commence la nouvelle série des comédies et proverbes. Et donc il fallait que je travaille parce qu'on était quand même 5 ou 6 personnes déjà. Aujourd'hui on est 18, mais parce qu'on fait beaucoup plus de choses. Et la distribution, la vente internationale. Mais je pouvais pas leur dire, je n'ai plus de quoi vous payer. Donc, comme j'étais amie avec Daniel Toscan et Nicolas Sédoux, Daniel, il avait des projets. Et donc, je me suis louée avec le Losange comme producteur exécutif à Gaumont, à condition que le nom de Gaumont n'apparaisse jamais pendant la fabrication du film, parce que tout devenait plus cher si c'était Gaumont. Je savais pas gérer ça. Donc, on a fait ça. Et avec Nicolas Sédoux, c'était un peu plus compliqué parce que il trouvait que j'étais trop orgueilleuse, que je voulais être seule maître à bord pour une femme, tu penses, et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire la production. Il fallait être un homme, il fallait être deux. Exemple, Yves Gasser et Perrault, par exemple, auxquels il croyait beaucoup, qui travaillaient beaucoup pour Gaumont.
Action Film, oui.
Action Film. Et donc, lui, il était un peu réticent. Mais Daniel trouvait que c'était plus commode de passer par moi, parce que toujours la même chose. Je jouais pas le producteur, je faisais ce qu'il y avait à faire, quoi. Je faisais le travail. Et donc, on a fait le premier, c'était, je crois, le Danton. Donc, André Vaïda, Danton, on devait le tourner à Cracovie entièrement, parce que c'était quand même un gros film en costume, toute la Révolution française, tout ça. Et puis, l'état de guerre est arrivé en Pologne. Et donc, plus de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas Internet, enfin, il y avait... pas tout ça, aucune communication possible, et on était à un mois du tournage. Donc je savais pas très bien quoi faire, j'étais assez désespérée, et mon traducteur polonais, il m'a dit, mais demandez un visa. Alors j'ai trouvé ça d'une simplicité admirable, j'ai demandé un visa, lui il ne l'a pas eu, moi je l'ai eu, mais il y avait juste une liaison avec Rome. Donc je me suis trouvée dans un avion avec quelques bonnes sœurs et deux ou trois curés et moi, et on est allé à Varsovie où il y avait encore tous les braseros sur la route de l'aéroport pour le centre-ville, que l'hôtel Forum avait été entièrement fermé. J'étais quasiment seule au premier étage et j'ai vu Vaïda. Et j'ai dit, ben on va aller rapatrier en France le film. C'est une grosse difficulté parce que l'économie en Pologne et en France n'était pas du tout la même. et que les décors, par exemple, la guillotine et Danton, c'était Place de la Concorde. Et il me dit, alors on fait Place de la Concorde. Alors je lui explique que la Place de la Concorde, ça n'avait plus rien à voir avec ce que c'était, qu'il y avait l'obélisque ramené par Napoléon, qu'il y avait les fontaines, qu'il y avait les statues de Villotto. Il me dit, mais c'est pas très grave, on va faire des échafaudages et couvrir tout ça de figurations. Je dis, mais en France, on les paye, les figurants, c'est pas possible. Enfin, on a d'abord réussi à faire sortir de Pologne la fille d'Angers. Il voulait qu'elle parte en premier. Et après, quelques temps après, lui et Christina, Vaida, ont eu un visa. Et on a recommencé la préparation du film en France. C'était des acteurs, c'est-à-dire tout le comité salut public, le clan Robespierre était joué par des Polonais et le clan français était, le clan Danton était joué par des acteurs français avec Patrice Chéreau, Gérard Depardieu dans Bien le sûr. Rôle de Danton, etc. Et donc c'était une vraiment très 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 belle expérience. Parce que j'avais les jeunes stars polonais que l'équipe française connaissait pas, donc ils les traitaient comme des petits acteurs d'occasion,
ouais.
qui venaient pour quelques jours. Et on avait des problèmes. Gérard avait des problèmes avec Angers. Il buvait déjà beaucoup. Il était indiscipliné. Il traînait derrière les camions avec les machinistes et les électriciens à discuter le coup et à boire des coups. Et je me dis, ça va pas. Donc je vais voir Gérard et je dis, ça va pas, il faut que tu viennes voir Angé. Sauf que j'avais pas le feu vert d'Angé pour le voir. Enfin, je l'ai obtenu et Gérard arrive, il se jette
sur
Angé, l'embrasse. Enfin, tu veux bien me parler.
En fait, c'est ça, les acteurs. C'est il faut ça. Leur parler.
Absolument. Mais il aimait pas parler aux acteurs. Il voulait donner les indications très précises pendant le travail. Il voulait bien parler pour le travail. Mais dîner avec les acteurs, passer du temps avec eux au maquillage pour répondre à leurs états d'âme. Est-ce que je peux, est-ce que c'est vraiment utile que je dise ça comme ça? Ou est-ce que, en plus, lui, étranger, il est particulièrement exposé aux critiques des acteurs sur soi-disant des formules, des phrases indisibles, par eux. Enfin bon, ils se sont...
Il y a eu un coup de foudre.
Ils se sont réconciliés.
Ah oui.
Et puis, ça tombait très bien, parce que le lendemain, on tournait la scène d'Anton devant le tribunal révolutionnaire, où il est en train de retourner tout le tribunal, toute la salle, par sa faconde, par son...
Son éloquence, oui.
Son éloquence, et il perd la voix. C'est en réalité historique, il a perdu la voix, il pouvait plus parler, parce qu'il a parlé pendant des heures, il était comme Fidel Castro.
Oui.
Au bout de 4 heures de défense, il commençait à perdre la voix. Et donc il a perdu son procès, et donc il a été guillotiné. Et le dernier cri qu'il fait avec la voix déjà très prise à Robespierre, il l'accuse, il dit, toi, tu seras comme moi, tu seras guillotiné comme moi. Ce qui était inimaginable à l'époque. Et en fait, toute l'histoire de Danton est basée sur la pièce de théâtre d'une écrivaine polonaise. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est toujours, toujours, toujours Robespierre qui était le héros révolutionnaire pur, intact, avec une idée de faire la révolution, de chasser toute cette injustice vis-à-vis des aristocrates. Et que Danton était un buveur, un coureur de jupons, mangeait comme un cochon, enfin en gros un bourgeois. Et que donc c'était une pièce anti-Robespierre et pro-Danton. Et ça fait une petite révolution quand même en France. Parce que tous les manuels scolaires étaient basés sur le contraire. Donc on a fait ça. Non, sans mal, c'est Jean-Claude Carrière qui avait écrit l'adaptation de la pièce de théâtre. Christina, la femme d'Angé, parlait parfaitement français. Et c'est la seule fois, je crois, où j'ai eu plaisir de fréquenter le metteur en scène ou avec sa femme en dehors du travail. Parce que c'était tellement extraordinaire, ces Polonais. Parce que Andrzej, par exemple, il voulait pas quitter la Pologne. Il disait, si on s'en va tous, comme Polanski, comme Zulawski, comme Zanussi, ils feront que ce qu'ils veulent. Oui. Il faut qu'on reste sur place et qu'on se bat sur place pour gagner la liberté. Et l'explication que Gérard lui a demandé pour savoir qui était exactement Danton, parce que c'est, il savait pas exactement l'histoire, ni, enfin bon, tout ça, il s'en foutait un peu. Il voulait qu'on lui dise qu'est-ce que c'était lui, physiquement et en intimement dans son âme comme personne. Et donc, Vaida.
Il en avait besoin
pour jouer. Oui, pour comprendre le rôle. Et donc, Vaida avait organisé un dîner avec Lech Walesa. Et c'était au moment des grèves de Gdansk, un peu avant l'état de guerre. Et Lech Walesa est arrivé épuisé. Et Vaida dit à Depardieu, tu vois, c'est ça. Les révolutionnaires, c'est des gens qui ne dorment pas, qui sont épuisés. Gérard, ça lui a suffi comme explication.
Il a compris.
Il a tout compris. Ça l'aidait pour jouer le personnage.
Un autre de mes torts fut d'être populaire et d'être fort. Alors que seuls l'obscurité et la mesquinerie peuvent assurer de longs jours tranquilles. Si vous voulez durer, ne soyez pas aimé. C'est une des lois nouvelles que nous avons inventées. Une de ces lois d'autant plus puissantes qu'elles sont écrites nulle part.
Danton, 1983.
Malheur aux hommes forts et aimés du peuple! Longue vie aux médiocres, taciturnes, amers dans la solitude de leur bureau. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver? D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il s'il s'arrête un jour?
Donc, si on revient sur cette période où vous travaillez, vous êtes un peu façonnière pour Gaumont. Vous amenez votre savoir-faire.
Oui. J'avais pas vraiment d'interlocuteur chez Gaumont. Parce que il trouvait que tout ce temps qu'on passe entre le moment où il décide de financer un film et le moment où le film est là, on peut faire la promotion, le vendre, l'exploiter, un an et demi. Mais qu'est-ce que vous foutez pendant tout ce temps-là?
On fabrique.
Ben oui, mais comment ça peut prendre un an et demi? Parce qu'une fois que vous voyez un film fini, c'est difficilement imaginable que ça prend un an et demi, parfois même deux ans, de le fabriquer.
J'aimerais que vous parliez de Daniel Toscan du Plantier, parce que vous étiez ami avec lui.
Oui.
Et là, on est à un moment où il a un rêve important, quand même. C'est de faire de Gaumont une major européenne.
Bien sûr.
Et vous en êtes, d'une certaine manière, un des rouages.
Ben, je lui ai donné, quand il avait besoin d'un coup de main, je l'ai donné pour la fabrication.
Voilà.
Parce que lui, il faisait un concept, il le voulait, mais après, il faut des petites mains derrière qui le fabriquent, qui fabriquent les choses. Et il était très convaincu, je trouvais qu'il avait complètement raison. Il y avait un homme très important, un producteur très important chez Gaumont à l'époque, qui était Alain Poiret,
oui,
qui faisait succès sur succès.
Les comédies,
Comédies voilà, françaises, avec les stars françaises, des confirmes. Donc Daniel était extrêmement intelligent. Il avait compris tout de suite qu'il ne devait pas se mettre sur le même chrono qu'Alain Poiret, qu'il fallait faire autre chose avec Gaumont. Donc c'était de faire une major européenne qui était un bouleversement mais inimaginable chez Gaumont. C'était franchouillard, franco-français à fond. Mais comme il était très proche de Nicolas Sédoux, il a fait Don Giovanni avec Joseph Losey, l'opéra filmé dans les villas de Palladio dans le nord de l'Italie, où les clavecins se désaccordaient aussi vite. Il fallait les accorder plusieurs fois par jour. Enfin. Et donc, j'ai trouvé très, très intelligent. Et puis, il aimait les mêmes films, en fait, comme moi. Mm-hmm. C'est-à-dire des films qui vous emmènent dans un autre univers. Et qui sont faits par des vrais cinéastes.
Donc il y avait ce qu'on a appelé le projet de la Gaumont en Italie, qui a été un échec. Ah, mais oui. Il avait une vision quand même.
Ah oui, il avait une vision. C'était un échec parce que il était assez, innocent dans cette Italie. Qui est même très spécial.
Il était fasciné par l'Italie.
Il était fasciné par l'Italie, mais l'Italie, c'était quand même un pays cinématographiquement très organisé.
Oui.
Que les promesses, ça vaut que pour ceux qui les écoutent.
Oui.
Celui qui l'a fait, la promesse, ça n'a aucune valeur. Enfin, ils n'étaient pas habitués à ce système dans les affaires comme en Italie. Le circuit de salle que Nicolas devait acheter, c'était tout d'accord, et puis en tout cas pas pour le même prix. Ils étaient comme deux bleus,
oui,
dans un pays extrêmement
roublard,
malin, avec habitué aux grands talents. Ils les ont photographiés tout de suite. Et donc c'était un échec, la Gaumont Italie.
Il y a eu le Brésil aussi.
Et puis Daniel était très humilié dans tout ça, parce que le fils de Roberto Rossellini, Renzo Rossellini,
oui.
Il était directeur, et puis on est allé de Gaumont Italia, oui. Et on est allé à Festival de Venise, en grande pompe, grand dîner, Gaumont, etc. Et Renzo présentait Daniel comme le directeur de Gaumont France. C'était une humiliation insupportable pour lui. Renzo était son employé pour l'Italie.
Bien sûr.
Mais lui, Daniel, n'était pas le directeur de Gaumont France. Gaumont France était la maison mère,
oui.
Et Gaumont italienne, c'était pour lui, qui était très... qui aimait beaucoup la fréquentation de la presse, de la télévision et tout ça. Parfois, je me demandais, il recevait des journaux, je ne connaissais même pas le nom. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais avec un tel? Ah oui, il vient de faire une interview. Il était très... c'est-à-dire, il fallait qu'il... C'est ce qu'il avait trouvé pour s'établir, lui venant de la publicité. Il fallait qu'il se trouve une légitimité.
Mais aujourd'hui... on va parler d'aujourd'hui aussi,
oui,
mais plus tard.
Oui.
Avec le recul, cette expérience de la Gaumont avec une visée internationale qui ne marche pas, c'est quand même un échec pour tout le cinéma français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait une major européenne de taille à non pas concurrencer les grands studios américains, mais quand même avec une ambition, parce que Daniel Toscan-Duplantier voulait produire Bergman, Kurosawa, les grands cinéastes italiens, Rossi, etc. Le cinéma français aurait eu peut-être un autre aspect, non? Vous croyez pas? Sur le plan économique?
Oui, mais c'était pas bien pensé, quand même. Parce que, ce qui est possible en Amérique, un grand territoire, avec 20 fois, 30 fois plus de spectateurs, ouais, potentiels que la France, l'Europe, c'est quand même des tas de petits pays comparés à l'Amérique, avec des habitudes différentes, des stars différentes, des langues différentes, etc. Donc c'était pas, il fallait penser au côté exploitation, marché. Et peut-être il fallait d'abord faire une distribution européenne et après produire pour cet outil de travail qui était la distribution européenne. Mais en tant que Français, c'était un tout petit peu, compliqué. C'était un gros travail à faire. Et puis, si c'était pas tout un échec, toute l'Italie, c'était un échec. Mais ça a quand même fait quelques beaux films. Et Fanny Alexandre était un grand succès. Il y avait des films de Kurosawa qu'il a fait avec Serge Zimmerman, finalement,
Ran,
producteur. Était un film magnifique, Ran. Mais c'est-à-dire, on ne peut pas dissocier la fabrication, la création et la fabrication des films qui sont comme ça, du système d'exploitation des films. Et en fait, Daniel pensait à la création, mais toute cette marchandise,
oui,
il n'y avait pas de clients. Enfin, il y avait 12 clients en Europe. Et l'un voulait, l'autre voulait pas, et puis il fallait faire les versions. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait fabriquer les deux choses en même temps. Si on voulait devenir un acteur important en Europe.
Vous étiez proche de lui. Donc vous avez senti, chez Daniel Toscan-Duplantier, ce sentiment de l'échec. Et quand il quitte la Gaumont pour travailler à Erato Film, où il produit Maurice Pialat, puis après il devient président d'Unifrance. Vous avez connu cette période
bien.
Où il est...
Quand il a été licencié de Gaumont, le bureau était deux maisons plus loin en 26, il a débarqué direct dans mon bureau, on me dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Il voulait qu'on travaille ensemble, enfin qu'on fasse des choses ensemble. Et il a jamais eu, si vous voulez, c'était plus compliqué que ça. Parce que lui, personnellement, il était convaincu que son boulot était la création des films. C'était pas l'exploitation.
Il était du côté des artistes, lui, tout le temps.
Il était complètement du côté des artistes. Et à un moment donné, il m'a dit... Le bilan des Gaumont a une drôle de tronche cette année. Je dis, mais écoute, Daniel, t'es directeur général, il faut que tu t'en occupes. Tu vas pas laisser faire le directeur financier. Parce que je savais par expérience de qu'est-ce qui est vraiment un échec, qu'est-ce qui est pas vraiment un échec, qu'est-ce qui a encore un immense potentiel. Justement, à cause de la lenteur de l'exploitation, même en Europe, on peut jamais sortir le même jour. D'ailleurs, ça nous pose aujourd'hui un gros problème à cause des plateformes. C'est impossible de sortir pour des producteurs, distributeurs européens, de sortir le même jour dans les 27 pays de l'Europe, par exemple. Même dans 10, c'est pas possible. Parce que les usages sont pas les mêmes qu'en Italie. Dès la fin du mois d'avril, il n'y a plus un chat dans les cinémas, tout le monde est à la plage. En France, c'est un système, en Allemagne, c'est un autre système.
Les habitudes sont différentes.
Et il voulait, ça l'intéressait pas du tout, les finances de la société. Et quand on est directeur général, on doit quand même jeter un œil de temps en temps. Et donc, ils ont fait venir d'abord Christian Fechner.
Oui.
Chez Gaumont.
Qui a un savoir-faire en termes de cinéma populaire.
Mais oui. Christian, ça lui a pas trop plu c'était vraiment un indépendant.
Bien sûr.
Pourquoi il travaillerait tout d'un coup pour Nicolas Sédoux? C'était vraiment mal sentir les choses. Et donc, ils sont partis tous les deux en même temps. Daniel a débarqué dans mon bureau, il voulait qu'on fasse une société, enfin quelque chose ensemble, il fallait que ça continue. Et il n'était pas là depuis un quart d'heure, téléphone, François Mitterrand, qui lui disait, ne vous inquiétez pas, je vous aime beaucoup, j'ai peut-être des projets pour vous dans l'avenir, etc. Daniel comprend, l'Opéra Bastille. Qui venait de finir sa construction. Sauf que, alors là, je sais pas les détails, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être Mitterrand était pas assez puissant pour imposer un directeur qui n'avait jamais dirigé un opéra au monde. Peut-être c'est autour de lui. Enfin, je sais pas, toujours ça s'est pas fait. Et Nicolas, qui est quand même un ami depuis Sciences Po de Daniel, lui a laissé Erato pour un franc symbolique à l'époque.
Erato, c'était une compagnie de
musique.
D'édition musicale, oui.
D'édition musicale. Et c'était juste au moment où commençaient les CD.
Oui.
La musique numérique. Donc Erato, avec un fonds de droits de musique immense, exceptionnel chez eux, ça a commencé à bien marcher. Donc Daniel a fabriqué le cinéma parallèle à la musique.
Il a produit les films de Maurice Pialat surtout.
C'est ça, hein. c'est ça.
Police, Sous le soleil de Satan, Palme
oui.
d'or.
Absolument. Sous le soleil de Satan, c'était extraordinaire. Ouais. Parce qu'il croyait pas qu'ils auraient la Palme d'or. Ah, pas du tout. Et finalement, ça a été la Palme d'or, à moitié huée.
Oui.
Et Maurice faisait comme oui. ça au public.
Si vous ne m'aimez
sur
pas.
Sur la scène, oui, c'est ça, moi non plus. Je vous aime pas. Non, c'était extraordinaire. Il avait la confiance des metteurs en scène
oui.
qui avaient suffisamment de comment dire, d'équipement en eux-mêmes pour dire on n'a pas besoin qu'ils soient pragmatiques, qu'ils fassent les choses, etc. On sait faire. On a besoin de. Ils avaient confiance dans son jugement et ils avaient besoin de son argent.
Il y a un point commun entre vous et lui, c'est que vous avez présidé Unifrance après lui, mais lui a été un long président d'Unifrance, 15 ans, je crois.
Oui.
Oui, c'est vraiment... Il a donné aussi un peu le panache à cette fonction, parce qu'il était un ambassadeur assez remarquable.
Exceptionnel.
Il incarnait le cinéma français partout, quoi.
Oui. Et il était, si vous voulez, c'était pour lui une façon de représenter le cinéma français dans son ensemble. Ce qu'il pouvait pas faire en tant que producteur ou en tant que distributeur, etc. Avec Unifrance, c'était possible. Et c'était vraiment une officine drôlement endormie avant qu'il arrive. Et donc il a pris ça en main, il l'a rendu célèbre de il a beaucoup de mérite parce que tu en tant que président d'Unifrance, tu es toujours assis à la table la plus ennuyeuse dans tous les dîners, dans toutes les ambassades, dans tous les c'est pas facile de faire quoi, c'est loin du centre des intérêts. Il aimait passionnément les acteurs et les metteurs en scène. Les exportateurs, c'était des petites mains, sans grande importance pour lui. Il leur donnait très peu de place. Il présentait sur scène toutes les délégations artistiques et les exportateurs étaient restés au fond de la salle, quoi. Et donc, quand même, c'est une association qui travaille pour l'exportation du cinéma français. Non, mais il a redoré le blason d'Unifrance d'une façon extraordinaire. Il avait une connexion très avancée vis-à-vis du monde politique. Donc, il a réussi à avoir doubler, voire même tripler le financement de Unifrance, qui était une petite association complètement dormante, fondée par des producteurs pour des producteurs. Et puis, comme le cinéma a évolué, à l'époque, il n'y avait pas tous ces exportateurs. Chaque producteur ou les distributeurs du même film, ils s'occupaient de l'exportation, quoi.
Donc, il est resté, Daniel Toscan du Plantier est resté votre ami jusqu'à sa mort.
Ah oui, complètement. Complètement.
Mais il est mort en 2003.
Complètement, oui. Parce que si vous voulez, c'était vraiment un ami, parce qu'il n'y a qu'avec un ami que vous pouvez faire l'impasse sur des défauts. Vous pouvez essayer de lui dire, fais attention à toi, fais ci, fais ça, etc. Mais c'était pas dans son mode de pensée, et puis je lui en voulais pas. Il y a qu'avec un ami où vous pouvez oublier s'il vous obéit pas, s'il vous écoute pas.
Merci, Margaret Menegoz. On se retrouve demain soir à 20h.
D'accord. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Serge Toubiana avec Margaret Menegoz. À voix nue, réalisation Thomas Duterre, prise de son Laurent César, attaché de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.